LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. Ce communiqué est signé du professeur Vignaloux, le médecin de M. Pompidou.
1974, Pompidou est mort. Un documentaire de Christelle Le Polotec et Anne Fleury. Deuxième partie, la disparition.
Et nous allons maintenant de plus en plus pouvoir vous passer des images qui correspondront à diverses époques de la vie du président décédé il y a environ une heure et demie. Nous allons les mêler d'informations parlées, nous allons, je vous l'ai dit, improviser, parce que ce qui est survenu aujourd'hui, eh bien, je dois dire que nul ne s'y attendait, nous, pas plus que les autres.
En effet, tout le monde savait que le président était malade. Mais personne n'aurait imaginé qu'il mourrait si soudainement. Ce soir du 2 avril, la plus grande confusion règne sur les plateaux télé. Mais en coulisses, à l'Élysée, à Matignon, alors que la France est sous le choc, les allées et venues ne cessent pas. Lieutenants frémissants et futurs candidats sont sur le pied de guerre. De fait, l'activité politique ne s'est pas interrompue un seul instant. La veille de sa mort, Georges Pompidou, dont l'état de santé s'était considérablement dégradé, est ramené en ambulance de sa maison de campagne à Orvilliers jusqu'à son domicile parisien, quai de Béthune. Malgré son état, il s'entretient plus de 6 heures, de la fin de l'après-midi à 2 heures du matin, avec son plus proche conseiller, Pierre Juillet. Pourtant, alors que la question était dans toutes les têtes, il semble qu'à aucun moment, le sujet de sa disparition n'ait jamais été abordé frontalement avec le président. C'est en tout cas ce qu'écrit François Giroux dans l'Express. Ce qui paraît positivement incroyable, c'est que personne ne tenait directement de Georges Pompidou, président du pouvoir en exercice, possédant un pouvoir quasi absolu, atteint d'une maladie mortelle et le sachant, une confidence, un aveu. Comme si le secret à être enfoui pouvait être oublié par le destin qui attendait Georges Pompidou un soir d'avril pour trancher, dans sa 63e année, le fil de sa vie. C'est ce silence du président qui explique peut-être la guerre fratricide qui va se jouer à droite et dont les archives de l'époque témoignent des rebondissements jour après jour.
Georges Jean Raymond Pompidou, président de la République française, était né le 5 juillet 1911 à Montboudif, Cantal, fils de Léon Pompidou, instituteur, puis professeur d'espagnol, et de madame née Marie-Louise Chavagnac, institutrice. Il avait fait ses études au lycée La Pérouse à Albi, au lycée de Toulouse, au lycée Louis le Grand à Paris, à l'école normale supérieure. Il était agrégé des lettres, diplômé de l'école libre des sciences politiques, communément appelée Sciences Po. Comme carrière, eh bien, il avait commencé comme professeur de lettres au lycée Saint-Charles à Marseille, où il professa de 35 à 38, puis au lycée Henri IV à Paris, de 39 à 44. Il fut chargé de mission au cabinet du général de Gaulle, de 44 à 46, breveté du Centre des hautes études administratives en 47, adjoint au commissaire général au tourisme, de 46 à 49, maître des requêtes au Conseil d'État en 46, en disponibilité de 54 à 57, puis maître des requêtes honoraires en 1957. La suite de sa carrière, elle est évidemment beaucoup plus connue.
Vous écoutez France Inter, il est 23h. Le fils de M. Georges Pompidou, le docteur Alain Pompidou, est arrivé tout à l'heure, quai de Béthune, pour se rendre au chevet de son père. De même, les dépêches nous disent que de nombreux Parisiens arrivent quai de Béthune. Nous appelons Patrick Frances. Patrick Frances ?
Oui, 24 quai de Béthune, en effet au second étage, deux fenêtres allumées, un service d'ordre important empêche l'accès au quai de Béthune. Aucune visite n'est attendue ce soir, quai de Béthune. La consigne a en effet été donnée par M. Chirac, ministre de l'Intérieur, de ne laisser passer personne. Cette consigne a été donnée aux journalistes par le directeur de la police municipale, M. Ducret. À l'origine de cette consigne, un vœu de Mme Pompidou elle-même. Et Mme Pompidou ne souhaite ce soir recevoir aucune visite d'aucune personnalité ni d'aucun membre du gouvernement. Il règne bien entendu dans le quartier une agitation inhabituelle, de nombreuses voitures et une centaine de personnes contenues par des barrières.
Ajoutons que, sur le plan constitutionnel, le décès de M. Georges Pompidou entraîne la désignation du président du Sénat, M. Alain Poher, qui exercera provisoirement les fonctions de chef d'État. Et pendant cet intérim, aura lieu l'élection du nouveau président.
Oui, il y a un précédent, en l'occurrence, c'est quand le général de Gaulle a donné sa démission, au mois d'avril 1969, le président Alain Poher, président du Sénat, a exercé l'intérim des fonctions de président de la République. Concrètement, cela voulait dire qu'il est allé s'installer à l'Élysée et que, avec la collaboration, et à l'époque, cette collaboration a été bien difficile, du gouvernement Couve-de-Murville, M. Alain Poher a rempli, pendant le temps de la campagne électorale, ses fonctions de chef d'État. Cette campagne électorale doit durer entre 20 jours et 35 jours après soit la démission du président de la République, soit, ce qui est le cas aujourd'hui, le décès du président de la République en exercice. Voilà quelle est donc constitutionnellement maintenant la situation, c'est-à-dire que le gouvernement Messmer reste en place, mais que M. Alain Poher, président du Sénat, va être chargé d'assurer l'intérim de la présidence de la République.
Bernard Vallette de Washington.
Eh bien, ici aux États-Unis, la nouvelle a été largement diffusée déjà par les radios et certaines chaînes de télévision ont interrompu quelques instants leur programme pour un flash spécial. Officiellement, bien sûr, il n'y a pas encore de réaction, mais cela ne saurait tarder. À vrai dire, à Washington, la mort du président Pompidou ne surprend pas tout à fait, car depuis plusieurs mois, et surtout ces dernières semaines, la presse américaine, sur plusieurs colonnes, longuement, s'interrogeait sur l'altération de son visage et l'annulation ou le report de plusieurs manifestations auxquelles il devait participer. On se demande maintenant ici si Richard Nixon, qui avait sèchement annulé son voyage en Europe du mois d'avril pour des raisons politiques, fera maintenant le déplacement de Paris pour les obsèques du président Georges Pompidou.
J'appelle maintenant Richard Vernet, qui se trouve à l'Assemblée nationale auprès du président Edgar Faure. Richard Vernet.
Oui, bien écoutez, François Foucard, ici à l'Assemblée nationale, du moins dans l'hôtel de Lassay, la présidence de l'Assemblée nationale, les députés un à un arrivent, des députés dont les visages sont inconnus du grand public, et sur certains visages on voit la douleur, la consternation. Et puis le président Edgar Faure vient à l'instant de dire quelques mots, et vous allez voir qu'il était ému.
Nous sommes sous choc, et par conséquent, tout ce que je veux dire, c'est la reconnaissance et l'admiration que nous avons pour ce grand Français, pour ce grand homme d'État, pour son œuvre. Et pour l'instant, le reste est silence.
Voilà, le président Edgar Faure n'a pas voulu en dire plus. Il a simplement ajouté que, selon lui, le président Georges Pompidou s'était certainement surmené et que, par conséquent, en cherchant à comprendre, en cherchant à savoir plus, mais personne ne veut en dire davantage pour le moment.
Le 2 avril 1974, à 23h, les médias annoncent la mort du président Pompidou. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là à l'Élysée, à Matignon et dans les états-majors, Alain Duhamel ?
Évidemment, c'est d'abord la surprise absolue et c'est la mobilisation générale. Moi, j'ai gardé un souvenir très précis de cette soirée, puisque je revenais de vacances, enfin des vacances de Pâques. J'arrivais à la gare de Lyon et des gens se sont précipités sur moi pour me dire « Vous savez, il est mort ». Et moi, j'ai laissé ma femme, les enfants et les valises. J'ai sauté dans un taxi et j'ai filé à Europe 1 où tout le monde était là et où ça téléphonait de partout et tous les politiques se manifestaient. Alors, il y avait deux types de réactions, simultanées et souvent conjuguées. Il y avait à la fois le respect, le deuil, la mémoire de celui qu'on commençait à honorer, d'autant plus que c'était un président qui n'a pas eu le temps d'être impopulaire. Donc il y avait évidemment un deuil, et puis il y avait des ambitions. Alors elles ne se sont pas manifestées le soir même. En revanche, elles se sont manifestées très vite, et certaines, je pense à Jacques Chaban-Delmas, trop vite.
Il est extrêmement...
Matignon, peut-être que nous allons avoir Alain Fernbach en ligne. Vous m'entendez? Non, je crois que nous ne pouvons toujours pas non, avoir
nous n'avons
Alain
pas.
Fernbach.
Je pense que dès qu'ils ont appris la nouvelle, nos camarades de l'équipe de 24 heures sur la Une ont fait comme ceux qui s'adressent à vous maintenant. Et d'où que nous ayons été, nous sommes revenus très très vite rue Cognac-Jay. Et puis chacun est allé essayer de prendre les postes où il travaille en général. Alain Fernbach, spécialiste de politique intérieure, doit donc être en train de parvenir à l'hôtel Matignon. Nous faisons, bien entendu, pour le mieux. Je pense que dès cet après-midi, on se rendait compte, je dis je pense, je n'en sais rien, c'est une spéculation. Je pense que l'on se rendait compte dans l'entourage du président de la République qu'il n'était pas bien du tout, qu'il était très mal, parce que non seulement il avait annulé la visite que devait lui rendre le président du Rwanda, qui est actuellement en France pour un séjour officiel de quelques jours, mais encore, Madame Pompidou avait annulé le thé qu'elle devait donner en l'honneur de l'épouse du président du Rwanda. On ne donnait aucune indication sur l'époque où le président de la République pourrait reprendre ses activités, mais je dois le dire que, sauf peut-être aux très rares intimes du président de la République, même ce communiqué que nous avons donné n'avait pas semblé devoir comporter des conséquences aussi graves. On pensait que c'était une nouvelle manifestation de sa maladie. Nous avons maintenant Alain Fernbach.
Nous n'avons toujours pas Alain Fernbach, qui est en ce moment même à l'hôtel Matignon, mais qui n'a pu établir la ligne.
Alors nous essayons d'établir la liaison. Toutes ces choses-là ne se font pas. Je pense que les téléspectateurs le comprennent. Toutes ces choses-là ne se font pas en appuyant sur un bouton, en soufflant dessus. Il y a à établir des liaisons techniques et cela peut prendre encore un peu de temps.
Émeric de Dampierre est devant l'Élysée. Émeric de Dampierre.
Les grilles du palais de l'Élysée sont fermées. Le pavillon est descendu à mi-mât. De l'autre côté de la rue du Faubourg Saint-Honoré, une centaine de personnes attendent en silence. L'atmosphère est grave et silencieuse. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes en tenue de soirée. Dès qu'ils ont appris la nouvelle, ils se sont rendus devant le palais pour rendre un dernier hommage au président Pompidou. À 21h30, le Premier ministre est entré au palais pour une vingtaine de minutes. Pour le moment, on attend peu de personnalités officielles au palais présidentiel. Malgré la pluie qui tombe, les gens tiennent à rester dehors et à manifester par leur présence silencieuse leur attachement au président disparu.
Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, nous allons terminer cette série de nouvelles, cette émission concernant la mort du président de la République française. Sur le plan de notre métier, ça a été une soirée complètement improvisée, vous l'avez vu, parce que personne, dans notre maison tout au moins, ne s'attendait à la fin brutale du président de la République. Il est le quatrième président de la République française depuis la création de la Troisième République qui meurt au moment de son mandat. Sadi Carnot, Félix Faure, Paul Doumer étaient morts alors qu'ils étaient présidents de la République et M. Georges Pompidou est décédé hier, donc je dis hier, puisque nous sommes déjà à minuit 20 en ce mercredi. Ce n'est pas à moi, certainement pas, ce n'est pas à un journaliste de cette maison qu'il appartient de faire un portrait du président disparu. Je voudrais dire cependant que dans notre métier, nous avons souvent l'occasion de fréquenter les grandes ce monde et nous nous formons des idées sur eux, peut-être justes, peut-être fausses, comment le savoir. Enfin, ce sont des idées que nous avons en tant qu'hommes. On pouvait être d'accord ou pas d'accord avec les options politiques du président, on pouvait être pour lui ou contre lui, mais sur le plan personnel, chaque fois qu'on l'approchait, on était frappé par son intelligence exceptionnelle, par sa culture qui transparaissait toujours, et surtout par un art de la vie. Chaque fois qu'il répondait aux questions, même les plus banales qu'on pouvait lui poser, il y avait dans sa réponse quelque chose qui allait du fond du cœur, au-delà des réponses de pleine et entière convenance. Quand on s'adressait au président Pompidou, on avait un peu l'impression qu'à ce moment-là, au moment où on lui parlait, on était la personne qui comptait pour lui. Je vous le dis, c'est une impression peut-être fausse. Il meurt à l'âge de 63 ans. Il laisse une veuve, Madame Georges Pompidou, à laquelle nous adressons nos condoléances les plus émues, les plus sincères, les plus respectueuses. Il laisse un fils, le docteur Alain Pompidou, et il laisse trois petits-enfants. Nos émissions reprendront demain à midi en principe, mais si au cours de cette nuit, on apprenait des nouvelles d'une importance exceptionnelle, et vous savez bien les nouvelles auxquelles je puis penser en vous disant cela, nous serions susceptibles d'ouvrir l'antenne à n'importe quel moment. Je voudrais vous rappeler en tout cas que nos camarades de France Inter émettent, eux, toute la nuit et qu'ils vous tiendront au courant de toutes les dernières informations qu'ils auront reçues. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Georges Pompidou est mort. Je n'ose pas vous dire que je vous souhaite une très bonne nuit. En tous les cas, à demain.
Dès lors, les langues se délient. Françoise Giroud, dans un long article pour l'Express, revient sur le secret de la maladie du président. Et nous, journalistes, que devions-nous dire de ce que nous savions? 10 fois, nous nous sommes interrogés sur ce qu'il fallait publier. Notre devoir étroit n'était-il pas de passer outre à la répugnance des Français à percer l'intimité d'un homme et de son corps souffrant? 10 fois, nous avons reculé. Y compris les premiers jours de février dernier, après avoir appris que Georges Pompidou était désormais à la merci d'accidents de plus en plus fréquents, dont l'un serait un jour mortel. Qu'il était entré dans la dernière phase de sa maladie. Nous le savions avec certitude, mais lui, le savait-il? Et sa femme? Après un débat, notre décision collective fut de garder le silence sur ce que nous étions seuls, je crois bien, à pouvoir écrire cette semaine-là.
Chaque fois que Pompidou meurt, à la radio on met malheur. Mozart, Beethoven, Scarlatti, en aucun cas Annie Cordy. Chaque fois que Pompidou meurt, au Luxembourg les sénateurs marchent près du bassin central, rêvant d'un destin national.
Le 3 avril.
Voilà, pendant près de 35 minutes et à moins de 24 heures après la disparition de Georges Pompidou, nous avons fait le tour des perspectives qui s'ouvraient maintenant à notre pays après la mort de Georges Pompidou. Donc, mais je crois qu'il serait bon maintenant de revenir un petit peu sur les circonstances de la disparition brutale et tragique du chef de l'État. C'était à 21h58 hier soir. Un communiqué de l'AFP, de l'agence France-Presse, très bref, annonçait la mort de Georges Pompidou. Aussitôt après, un très bref communiqué de la présidence de la République précisait que le président s'était éteint à 21h. L'acte de décès était signé par le professeur Vignaloux, dont les Français avaient découvert le nom et l'existence le 7 janvier dernier, Gabriel Mérélic.
C'est ce jour-là, en effet, que fut publié à l'Élysée le premier bulletin de santé officiel. Il disait simplement qu'en raison d'une infection grippale, le président de la République devrait garder la chambre quelques jours. Mais depuis un peu plus d'un an, les rumeurs les plus diverses circulaient sur la santé du chef de l'État. En décembre 72, recevant les enfants à l'occasion de l'arbre de Noël de l'Élysée, M. Pompidou s'excuse d'être un peu grippé. 15 février 1973, pour la première fois, le chef de l'État doit renoncer à présider le Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement indique que le président est grippé. En mai, M. Pompidou renonce à inaugurer le Salon du Bourget, puis il annule la traditionnelle réception de la fête des mères.
C'est en fait à l'occasion du voyage à Reykjavik du 30 mai au 1er juin pour rencontrer le président Nixon que le chef de l'État apparaît pour la première fois fatigué, voire malade.
La maladie du président de la République devient alors une affaire d'État dont s'empare la presse. Officiellement, on se refuse à tout commentaire et le président Pompidou lui-même fait part de son irritation aux journalistes. Sortant de la messe à Cajar, il leur lance « Si je ne sors pas depuis mon arrivée, c'est à cause de vous ». À l'issue d'un conseil des ministres, un membre du gouvernement déclare « Quand la borne est franchie, il n'est plus de limite ».
Dès cet instant, l'état de santé du président de la République devient une affaire politique. Et si certaines personnalités refusent de l'évoquer en parlant d'indécence, comme Jacques Chaban-Delmas ou François Mitterrand, d'autres commencent à parler d'échéance électorale.
En janvier dernier, recrudescence de la maladie. C'est tout d'abord le communiqué du 7 janvier, puis le voyage à Poitiers au cours duquel le chef de l'État paraît souffrant. En mars, le président se rend en Union soviétique pour y rencontrer Léonid Brejnev. Là encore, il doit limiter ses déplacements et paraît très fatigué. Et puis, à partir du 21 mars, lorsque le président de la République doit renoncer à assister au dîner du corps diplomatique, la maladie s'aggrave. Le chef de l'État annule plusieurs rendez-vous, il passe de plus en plus de temps dans son appartement privé du quai de Béthune. Vendredi dernier, il se rend à Orvilliers, dans sa maison de campagne. Il devait regagner le quai de Béthune lundi matin.
Jusqu'à présent, la maladie dont souffrait le président de la République n'a fait l'objet d'aucun communiqué officiel et il est peu probable que maintenant cela se produise.
Il se pourrait pourtant que le chef de l'État ait été victime d'un cancer, un cancer affectant le système nerveux connu sous le nom de maladie de Kahler, un mal encore peu connu dont on sait seulement qu'il est sans rémission. Les médecins avaient averti le président Pompidou de la gravité de sa maladie et aussi de son issue. Le chef de l'État avait déclaré un jour qu'il n'avait de compte à rendre qu'au peuple français. Il est probable qu'il en ait eu l'intention. La terrible maladie qui le frappait ne lui en a pas laissé le temps.
Mais nous allons voir aussi les conséquences à plus long terme de la disparition du président, des conséquences internationales, sociales, économiques, mais des conséquences avant tout, Patrick Poivre d'Arvor, politiques. Que va-t-il se passer maintenant en France ?
Une élection, bien sûr. Donc, deux possibilités. Le premier tour, dimanche 28 avril ou dimanche 5 mai. Le second tour, le 12 ou le 19 mai. On semble pencher actuellement pour un premier tour dimanche 28 avril et donc pour un second tour dimanche 12 mai.
La date d'abord, les candidats ensuite. Pour l'instant, trois candidats se sont déclarés, mais on serait tenté de dire trois candidats un peu marginaux.
Oui, tout d'abord, deux confirmations de candidature. Celle de Christian Fouché, ancien ministre du général de Gaulle, qui s'est refusé à toute autre déclaration, par égard, je cite, « au deuil tout proche de la nation ». Et puis celle de Jean-Marie Le Pen, dirigeant du Front National. Dernière candidature, mais ce n'est pas là non plus une grande surprise, celle d'Arlette Laguiller, militante de l'organisation trotskiste Lutte Ouvrière. Les téléspectateurs connaissent déjà le visage de Mademoiselle Laguiller, qui, lors des dernières élections législatives, avait fait une campagne remarquée.
Voilà donc pour les candidats déclarés, mais il est bien évident que ce qui accroche davantage l'intérêt, ce sont les candidatures à venir.
Bien sûr, alors, la majorité. Une candidature suggérée tout d'abord celle de Maurice Couve de Murville, candidature suggérée par une revue qui estime rassembler les gaullistes orthodoxes, la revue L'Appel. Mais disons tout de suite qu'on ne voit pas trop comment pareille candidature pourrait s'inscrire entre celle de Christian Fouché et celle d'un homme officiellement adoubé, intronisé par la majorité. Alors précisément, quel sera cet homme et sera-t-il seul ? Très peu d'éléments d'appréciation ce soir. La majorité veut se donner un temps de réflexion, une réflexion imposée par la décence, par la pudeur. Laissons cette journée à notre deuil, a dit Claude Labbé, le président du groupe UDR à l'Assemblée, à l'issue d'une brève réunion au Palais Bourbon. Les députés UDR ont en tout cas jusqu'à dimanche pour faire le point. Ce jour-là, il y aura réunion commune du comité central de l'UDR et des parlementaires gaullistes.
Dès le 3 avril, c'est-à-dire le lendemain de la mort du président, les premières rumeurs de candidature commencent à circuler.
Oui, dès le lendemain, les ambitions ont cristallisé, si j'ose dire, et se sont affichées, alors qu'avant, elles se dessinaient.
Alain Duhamel.
Bon, mais il n'y a pas eu trop de surprises. François Mitterrand, une partie de la France l'attendait. Valéry Giscard d'Estaing lui-même n'avait aucune hésitation sur ce qu'il voulait faire, puisqu'il s'était déjà posé la question en 69 de se présenter ou pas. Et évidemment, toute sa stratégie depuis était la préparation d'une candidature explicite. On savait qu'il serait candidat et on s'attendait quand même, en tout cas moi je m'attendais, à celle de Jacques Chaban-Delmas. Pierre Messmer n'avait pas envie d'être candidat. C'était un homme extrêmement courageux, d'ailleurs intelligent, mais ça n'était pas un ambitieux forcené. Et en plus, c'est quelqu'un qui avait un fond plus militaire que civil. Hein, il avait été un héros pendant la guerre, un vrai. Et ensuite, il avait été gouverneur général des colonies. C'était un homme d'autorité, mais il n'aimait pas la politique. Et donc, on le voyait mal sur le champ. Et évidemment, le personnage inattendu qui a surgi vraiment là, c'est Jacques Chirac. Ça n'était pas un des grands personnages de la politique encore. C'était un espoir, c'était une ambition. Et là, il a fait preuve d'une certaine témérité, d'une grande pugnacité, conseillé étroitement par Pierre Juillet et Marie-France Garraud. Je dirais conseillé par Pierre Juillet et piqué aux fesses par Marie-France Garraud, travaillant contre, si j'ose dire, son propre camp. C'est-à-dire contre Jacques Chaban-Delmas, qui avait la légitimité gaulliste. Il avait été Premier ministre, il avait été président de l'Assemblée, plus longtemps que personne. Le général de Gaulle l'aimait bien, il avait tous les titres historiques possibles et imaginables, et il était bien résolu à y aller.
Il est 13h10, le journal de Dominique Bomberger.
Depuis ce matin, 10h, vous avez pu suivre sur France Inter les cérémonies qui se sont déroulées dans l'île Saint-Louis. Le corps du président Pompidou, mis en bière dans un cercueil de chêne clair aux poignées d'argent, a quitté peu avant 11h l'appartement du quai de Béthune pour l'église de Saint-Louis-en-Lille. Une messe d'une heure environ s'est déroulée dans cette église, après quoi le fourgon mortuaire a pris le chemin d'Orvilliers par l'autoroute de l'Ouest. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Éric Gilbert et Pascal Delannoy.
Eh bien, le cortège arrive en ce moment même à Orvilliers. Nous venons de le voir, il était ouvert par 5 motards, suivi d'EDF, puis le fourgon et 11 autres voitures noires, dans la première d'entre elles, Madame Claude Pompidou. Tout se passera très rapidement, comme prévu, en quelques minutes. Le cortège doit s'arrêter en ce moment même le long du cimetière, au mur en pierre de taille recouvert de tuiles. L'abbé Ménez va procéder à l'inhumation, une cérémonie très simple qu'il nous a décrite.
C'est une affaire très simple, ça dure à peu près 5 minutes. C'est privé, nous serons très peu nombreux certainement, et je choisirai dans les lectures prévues par la liturgie celle qui me paraît la plus adaptée.
Dans la stricte intimité, c'est bien ainsi qu'aura lieu cette très courte cérémonie, car depuis cette nuit, et pour respecter les désirs du président Pompidou, l'approche d'Orvilliers est interdite, toutes les routes sont bouclées dans un rayon de plusieurs kilomètres, au carrefour des gendarmes qui ont dévié la circulation et puis dans le village lui-même, des forces de police en nombre. Pas de journalistes sur place, nous-mêmes nous sommes tenus à distance, la route a été dégagée, interdiction formelle de stationner sur la chaussée et dans tout ce périmètre, très peu de circulation. Nous avons pu tout de même traverser le village tôt ce matin, un village qui s'est réveillé sous un soleil d'avril déjà chaud, une place, un café-tabac, un boulanger, quelques rues, ici c'est la campagne des Yvelines. La vie est calme, elle suit un vrai rythme de province. Mais ce matin, on l'a senti tout de suite ici, ce matin restera très différent. Car nous sommes un peu au cœur du vrai deuil national. Le président Pompidou était encore il y a quelques jours à Orvilliers. Et c'est ici, vous le savez, qu'il a donc choisi de reposer. Ce glas que vous entendez, eh bien, c'est le glas qui sonne dans chaque commune de France lorsqu'il y a, comme on dit, un mort au village. L'abbé Ménez entend respecter à la lettre et dans leur esprit les dernières volontés de M. Pompidou. Il s'efforce d'oublier le président pour ne penser qu'au paroissien Pompidou qui va reposer dans le petit cimetière, un petit cimetière qui se trouve au bout de la commune et qui est un peu balayé par le vent, un cimetière de village aux tombes grises flanquées de quelques cyprès.
Et puis, il faut dire encore qu'il y avait beaucoup de monde ce matin devant le palais de l'Élysée, où bien avant 10h stationnait une foule grave et silencieuse. Il y avait là, contenu par des barrières métalliques, des gens de toutes conditions, de toutes nationalités, depuis de modestes ouvriers jusqu'aux diplomates. Tous étaient venus témoigner en signant sur les registres ouverts sous le porche de l'Élysée de leur tristesse et de leur respect pour le président défunt.
Je pense que c'est un exemple à suivre, notamment pour toute la jeunesse qui arrive. Chacun se demande de quoi sera fait demain.
C'est un homme droit et loyal qui a toujours fait son devoir. Et nous regrettons beaucoup.
Et puis ce matin, c'était la rentrée des classes dans toutes les écoles après les vacances de Pâques. Et avant de se mettre au travail, les élèves ont écouté un message du ministre de l'Éducation nationale. Arlette Chabot s'est rendue dans une école primaire. Écoutez le message de M. Fontanet et puis quelques impressions des élèves. Ces élèves ont entre 8 et 10 ans.
Message aux écoles du ministre de l'Éducation nationale. La France est en deuil. Georges Pompidou, qui, depuis 5 années, présidait aux destinées de la République.
Je pense que c'est une mort brutalement des suites très courageuse. Il a bien fait son devoir. Il a très bien terminé son rôle de président de la République parce qu'il savait qu'il allait mourir et il n'a pas voulu perdre la face. Et puis, il a voulu continuer à gouverner jusqu'au dernier moment. Et ça m'a fait un choc quand j'ai su qu'il était mort.
Bah, je pense que la mort de Pompidou, que c'est très triste. La France était dans un mauvais moment. Je le connaissais un peu. Je l'ai vu au 14 juillet et il m'a serré la main.
Nous nous souviendrons des liens qu'il attachait à l'Éducation nationale et qu'il aimait rappeler.
Je vous signale encore qu'en signe de deuil, les directeurs de théâtre et de cinéma ont décidé de fermer leurs salles pendant toute la journée d'aujourd'hui. Gilbert Picard a demandé à Paul Guth de nous parler aussi de ce jour où il avait vu débarquer le jeune Georges Pompidou rue d'Ulm.
Lui avait 19 ans et moi j'avais 20 ans quand il est arrivé en cagne au lycée Louis-le-Grand. Vous savez ce qu'on appelle la cagne dans l'argot scolaire, c'est la classe de préparation à l'école normale supérieure. Tout le monde, nous pensions tous avoir du génie, vraiment nous étions un peu ridicules comme on l'est toujours à ces âges-là. Et Pompidou était extraordinaire parmi nous tous, parce que tout lui était facile. Nous, on turbinait de façon atroce, on séchait notre chemise, on la mouillait aussi, notamment sur les révisions d'histoire. Et lui, Pompidou, vous savez, lisait tout ça comme on embroucherait une volaille, enfin, ou comme on avalerait un verre d'eau.
On dit qu'il était toujours premier, est-ce que c'est exact?
Ah oui, il était toujours premier, et surtout, surtout, en latin et en grec. C'était un hellénistes extraordinaire. D'ailleurs, il avait eu le premier prix de grec au concours général. Et quand il avait fini ses révisions, ben, une vitesse fantastique. Ou bien alors il lisait des romans contemporains qui n'étaient pas du tout au programme. Ou bien alors il allait griller une sèche, comme on dit familièrement, sur la galerie. Lui fumait des lacs et strikes. Et alors il rentrait à l'étude, enveloppé de cette vapeur odoriférante, comme on serait enveloppé de tous les parfums de l'Arabie.
La journée d'aujourd'hui, journée de recueillement national, sera suivie samedi par une journée de deuil national, journée marquée par une cérémonie solennelle d'hommage au président Pompidou. C'est ce qu'a décidé le gouvernement réuni hier matin sous la présidence de M. Messmer, Bruno Albin.
Cette messe solennelle sera célébrée samedi matin à 11h en la cathédrale Notre-Dame de Paris par le cardinal Marty. Les portes de la cathédrale seront ouvertes au public jusqu'à 10h du matin pour qu'il puisse prendre place dans la nef avant l'arrivée des personnalités prévues à 10h30. Une cérémonie qui ne sera pas sans rappeler celle qui avait marqué voici 4 ans dans cette même cathédrale Notre-Dame de Paris la disparition du général de Gaulle.
Si, comme tout le laisse prévoir, le premier tour des élections se déroule le 28 avril et par conséquent le second tour le 12 mai, les candidatures devront être déposées au plus tard mardi 9 avril à minuit. Les négociations d'état-major sont donc déjà bien avancées et le président Edgar Faure ne reste pas inactif. Hier, toute la journée, il a consulté à la présidence de l'Assemblée nationale et ce matin, à 11h, à l'Anvers, il est allé voir le président Poher au palais du Luxembourg.
Oui, M. Edgar Faure annoncera très certainement sa candidature ce soir après la séance de l'Assemblée nationale au cours de laquelle il prononcera l'éloge funèbre du président Pompidou. Et il présentera cette candidature avec le slogan « Un candidat au-dessus des partis ». Il a demandé ce matin au président Poher de lui confirmer le soutien des centristes. Hier, Edgar Faure avait déjeuné avec M. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Jean Le Canuet était allé voir, lui, le président Poher. Vous le voyez, la boucle est bouclée.
Alors voyons les autres candidatures, à commencer par celle qui pourrait sortir des rangs de l'UDR, celle de Pierre Messmer et celle de Jacques Chaban-Delmas. L'hypothèse Pierre Messmer, à peine esquissée il y a quelques semaines, était devenu, je dis était, parce que les choses ont peut-être un petit peu changé, était devenu plus directement d'actualité dans la journée d'hier, Patrick Poivre d'Arvor.
Oui, une hypothèse qui se justifiait dans la mesure où l'on voulait réaliser une candidature d'union de la majorité. On a toujours dit que le maire de Sarrebourg n'était pas très chaud pour se présenter, mais nombreux étaient ceux qui l'y poussaient, surtout chez ceux que l'on appelle les pompidoliens bontins. Or, il semble maintenant que cette unité de candidature paraisse difficile à réaliser, puisqu'on parle d'engagement imminent de la part d'Edgar Faure et de Jacques Chaban-Delmas, on l'a dit. Donc, cette hypothèse Mesmer perd un peu de sa force en cette fin de matinée. Cela dit, on fait quand même remarquer que par trois fois, le président Pompidou avait renouvelé sa confiance à Pierre Mesmer en l'installant à Matignon. C'est peut-être un signe, ce n'est pas une preuve. Et ce matin, l'on ne croit plus beaucoup non plus à l'éventualité d'un testament politique oral transmis par le président Pompidou à Pierre Juillet, son dernier visiteur quai de Béthune.
Bon, alors parlons maintenant de Jacques Chaban-Delmas, dont on dit de plus en plus que lui aussi, comme Edgar Faure, pourrait annoncer sa candidature très rapidement et peut-être même ce soir.
Oui, la certitude, c'est la résolution de l'ancien Premier ministre. Il veut se présenter, il le cachait à peine ces derniers mois, et de nombreux parlementaires gaullistes feront tout pour l'appuyer. En revanche, il existe un blocage beaucoup plus net de la part des intimes du président Pompidou. Je pense à Pierre Juillet, je pense surtout à Jacques Chirac, qui hier est intervenu au cours d'une réunion des amis d'Hector Roland, qui, vous le savez, ambitionne de rassembler la majorité silencieuse des députés UDR. Eh bien, le ministre de l'Intérieur a essayé de décourager une candidature à Chaban-Delmas.
Après l'hypothèse Mesmer, l'hypothèse Edgar Faure, l'hypothèse Chaban-Delmas, reste le cas Giscard d'Estaing. Et c'est là, Patrick Poivre d'Arvor, que le brouillard, en fin de compte, est le plus dense.
Officieusement, dans les rangs des Républicains indépendants, la candidature Giscard d'Estaing est toujours très probable. Les amis du ministre des Finances sont unanimes pour le pousser dans ce sens. Aucune faille, comme cela avait été par exemple le cas lors de la dernière élection présidentielle. Autre référence à ce qui s'est passé en 69, un certain attentisme de la part de Valéry Giscard d'Estaing lui-même. Certains parlent d'irrésolution. Donc, si candidature il y a, elle sera tardive, sans doute même la dernière pour la majorité, peut-être dimanche soir, lundi matin, en tout cas après la réunion du comité central de l'UDR. Dans l'entourage du ministre des Finances, on dit que le délai de décence ne peut se limiter à ce soir. Et c'est là un premier coup de pique à l'égard de Jacques Chaban-Delmas, dont on dit de plus en plus, vous le rappeliez, qu'il pourrait annoncer sa candidature ce soir. Car si une chose paraît bien établie, eh bien c'est cette acrimonie entre le maire de Bordeaux et celui de Chamalières, cela pour toutes sortes de raisons. Donc pour l'instant, il est difficile d'imaginer un ticket à l'américaine, un ticket Chaban-Delmas-Giscard d'Estaing.
Nous sommes le 4 avril, le président Pompidou vient à peine d'être enterré en début d'après-midi à Orvilliers et déjà la guerre de succession démarre. Est-ce que vous pourriez, Alain Duhamel, nous resituer les différents acteurs qui vont jouer un rôle prépondérant les prochains jours et les prochaines semaines ?
Alors, c'est Jacques Chaban-Delmas qui démarre le premier, trop tôt. Donc ça choque une partie des rangolistes. Quand on dit des rangolistes, ça veut dire en réalité des parlementaires. Mais Jacques Chaban-Delmas part le premier, c'est un homme qui est populaire, qui a le bon âge, qui a tous les titres possibles pour son camp. Ça a été un héros dans la Résistance, ça a été un ministre intelligent sous la 4e République, et d'ailleurs assez ouvert. Il était le plus ouvert des gaullistes de l'époque. C'est quelqu'un qui a été apprécié comme président de l'Assemblée nationale, comme un homme qui pouvait être un consensus. Ça a été un Premier ministre très intéressant, détesté par les pompidoliens, mais très intéressant, novateur. Le contraire d'un dogmatique et le contraire de quelqu'un de fermé. Et donc, il avait une bonne image. Il avait aussi, ce qui était son handicap, une réputation de légèreté. Et le fait est que pendant les années précédentes, 1974, on n'avait pas eu l'impression qu'il s'était beaucoup consacré à un travail de fond pour préparer une candidature. Bon, mais on savait qu'il serait sur les rangs et on savait qu'il aurait ses chances. Bon, Valéry Giscard d'Estaing, de toute façon, construisait sa candidature. Je dirais même que d'une certaine manière, il construisait sa candidature depuis qu'il est né. Toute son existence a tendu vers le poste suprême pour lequel Sa mère le prédestinait, pour lequel son entourage l'admirait tellement, pour lequel ses camarades de promotion, Alix, etc., pouvaient l'imaginer. Il était fait, il avait une vocation de président. Bon. Et il avait une stratégie de candidat depuis des années, c'est-à-dire qu'il était dans la majorité, mais il était autonome. Il jouait le jeu de la majorité ou le jeu de la solidarité gouvernementale, mais à sa façon, c'est-à-dire en se différenciant systématiquement, mais surtout ayant réfléchi à ce que... Il était le seul dans ce cas-là, avoir réfléchi vraiment à ce que devait être sa campagne, et notamment l'aspect technique de la campagne qui a été la plus novatrice de la Ve République. Valéry Giscard d'Estaing a inventé un type de campagne, ou plutôt il l'a importé des États-Unis, mais il n'empêche que lui avait sa technique que les autres candidats n'avaient pas. Bon, et il avait deux caractéristiques, l'une c'est qu'il était plus intelligent que les autres, et l'autre était qu'il était plus ambitieux qu'eux. Et ça s'est conjugué.
Il n'était pas à l'UDR ?
Non, bien sûr que
il
non.
Il était où ? C'était quoi son...
C'était les Républicains indépendants.
France Inter, Intervariété, FIP, il est 19h, Intersoir est présenté par André Sabas.
Jacques Chaban-Delmas et Edgar Faure, candidats à la prochaine élection présidentielle, c'est officiel depuis cet après-midi. Les choses aujourd'hui sont allées très vite. Les députés étaient réunis à l'Assemblée nationale pour entendre l'hommage à Georges Pompidou, quand Jacques Chaban-Delmas a rendu publique sa candidature. 1h08 plus tard, c'est Edgar Faure qui annonçait sa décision. Vous le voyez, tout se précipite. C'est au début de cet après-midi seulement que les obsèques de Georges Pompidou étaient célébrées à Orvilliers. En fin de matinée, une messe avait été dite en l'église de Saint-Louis-en-Lille, dans l'intimité qu'avait souhaité le chef de l'État disparu. Mais revenons donc dans le détail sur le déroulement de cette journée du 4 avril 1974, dont on se souviendra longtemps. À 16h cet après-midi, le président Edgar Faure, parlant de la brutale disparition du chef de l'État, déclarait « Tout s'est déroulé comme un film muet ». Et je serais tenté de dire, parlant cette fois du déroulement de l'après-midi, aussitôt après 16h, tout s'est déroulé alors comme un film en accéléré, Patrick Paul-Darvor.
Oui, 16h donc, la déclaration du président Edgar Faure, une déclaration sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure au Palais Bourbon, mais disons tout de suite que son contenu n'avait rien de directement politique, en tout cas rien d'électoral. Edgar Faure parle, Pierre Messmer lui répond. Les députés n'ont pas encore le temps de se lever de leur banc, que la nouvelle cour, Jacques Chaban-Delmas est candidat, il est 16h09. 1h08 plus tard, deuxième flash sur notre antenne, Edgar Faure est à son tour candidat à l'Élysée. Le président de l'Assemblée nationale vient de sortir du bureau de Pierre Messmer à Matignon, il a tenu à l'en informer le premier. Mais disons quand même que cette intention de se présenter n'était un secret pour personne, la candidature de Jacques Chaban-Delmas non plus. Ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est l'ordre chronologique des deux déclarations. On prévoyait la candidature Edgar Faure pour 17h et pour plus tard, celle du maire de Bordeaux, dont on avait dit qu'il avait personnellement demandé au président de l'Assemblée nationale de ne pas se présenter. Peut-être Edgar Faure espérait-il là décourager la candidature de l'ancien Premier ministre. Il a donc été autrement. Jacques Chaban-Delmas aura surpris tout le monde en se déclarant aussi vite. Alors est-ce que cette course de vitesse est bonne pour la majorité ? Les deux candidats se maintiendront-ils jusqu'à mardi minuit ? Date limite du dépôt des candidatures, l'avenir le dira. Cela dit, je vous rappelle que le délai limite des candidatures est toujours fixé à mardi minuit. Il est donc possible que l'une de ces candidatures de la majorité se retire. Le bruit court, par exemple, en ce moment, que Pierre Messmer aurait demandé à Jacques Chaban-Delmas de ne pas se présenter. Pierre Messmer, Jacques Chaban-Delmas et tous les grands de l'UDR sont actuellement réunis en ce moment à l'hôtel Matignon.
20h, allocution officielle du président Poher.
Françaises, Français, pour la seconde fois, les circonstances m'amènent à assumer les fonctions de président de la République par intérim. La disparition de celui qui présidait aux destinées de l'État depuis 5 ans est aujourd'hui douloureusement ressentie par l'ensemble des Français. Quel que soit les préférences politiques des uns ou des autres, nous avons tous admiré la conscience exigeante du président Pompidou dans l'accomplissement de ses devoirs et son exceptionnel courage face à l'adversité. Samedi prochain, à l'occasion du deuil national décidé par le gouvernement, le pays tout entier lui rendra l'hommage solennel qui lui est dû. Dans quelques semaines, vous aurez à choisir un nouveau président de la République. Ce choix s'effectuera en toute liberté, au terme d'une campagne qui permettra aux candidats d'exprimer clairement, et je le souhaite dans la dignité, leurs idées et leurs projets. Je compte sur vous pour que la démocratie et la France sortent renforcées de cette épreuve.
Vous êtes à l'écoute de France Inter, il est 20h03. La deuxième édition d'Intersoir, Patrick Pauvre d'Arvor.
Jeudi 4 avril, 13h, le président Pompidou est inhumé au cimetière d'Orvilliers. Jeudi 4 avril, 20h, déjà une multitude de candidatures pour une élection présidentielle dont on ne connaît même pas officiellement la date. On la devine pourtant, premier tour, le 28 avril, dans un tout petit peu plus de 3 semaines. Et ce soir donc, il faut déjà dresser une liste de candidats pour cette élection. Christian Fouché, Jean-Marie Le Pen pour le Front National, Alain Bousquet pour l'Alliance Républicaine Indépendante et Libérale, Arlette Laguiller pour le mouvement trotskiste Lutte Ouvrière, Alain Krivine pour la Ligue Communiste. Et puis surtout, 2 candidats déclarés cet après-midi, à 1 heure de distance, Jacques Chaban-Delmas et Edgar Faure. Nous allons parler dans un instant de ce que représentent politiquement ces 2 candidats. Mais voyons tout d'abord ce qui vient de se passer à l'hôtel Matignon où les principaux dirigeants gaullistes étaient réunis sous la houlette de Pierre Messmer. À l'hôtel Matignon, Jean-Luc Hesse.
Oui, et bien ici, Patrick Poivre d'Arvor, l'hôtel Matignon, la consigne de discrétion n'a jamais été aussi formelle. Aucun des ministres ou des parlementaires UDR qui étaient dans le bureau de Pierre Messmer n'a voulu faire de déclaration.
Bien, et voyons.
Je ne fais aucune espèce de déclaration. Je ne pense pas que d'autres que moi fassent également. Absolument pas. Non, non. Non, non, la tristesse vient de ce que nous avons appris il y a 48 heures. Mais pas du tout à cause de cette réunion d'aujourd'hui. Et vraiment, je suis désolé, je ne vous dirai absolument aucun mot de cette réunion. Je ne pense pas qu'aucun des participants vous en dise plus long que moi.
Oui, vous avez entendu Claude Labbé, le président du groupe UDR de l'Assemblée nationale, et vous pouvez le constater, la consigne de silence a été remarquablement observée. La réunion a débuté à 18h, Michel Debré est sorti le premier après 1h30 d'entretien. Quelques minutes après, Jacques Chaban-Delmas sortait à son tour. Le candidat à la présidence de la République n'a voulu faire absolument aucune déclaration. Pas plus qu'Alexandre Sanguinetti ou Olivier Guichard, qui ont quitté peu après le bureau du Premier ministre.
Après cette journée très chargée politiquement, place au recueillement. Dès le 5 avril au matin, les dirigeants du monde entier arrivent à Paris en vue de la cérémonie d'hommage à Notre-Dame, prévue le lendemain.
Depuis 7 heures ce matin, c'est un défilé incessant de personnalités à Orly. Une 40aine de chefs d'État et de gouvernement assisteront demain à Notre-Dame à la cérémonie solennelle à la mémoire de Georges Pompidou. Nous vous avons tenu informé toute la journée de ces arrivées. Où en est-on ce soir? Eh bien, j'appelle tout de suite William Lémergie qui est à Orly.
Oui, André Sabas, c'est sur l'aire X de la piste 3 d'Orly. À chaque fois, le cérémonial est le même. Monsieur Jaubert, accompagné de son secrétaire d'État, Monsieur Jean de Litovski, accueille au bas de l'échelle la personnalité étrangère. L'accompagne pendant 100 mètres entre une haie de 15 gardes républicains vers le salon d'honneur, vaste pièce ovale aux murs nus où l'attendent les diplomates du monde entier accrédités à Paris. Au milieu du salon, une sorte d'hôtel. Très simple, une table recouverte du drapeau tricolore et un portrait du président Pompidou. C'est là que chacun se recueille quelques instants, sort puis s'engouffre dans une voiture qui file vers la capitale. Aussitôt, M. Jaubert retourne vers l'aire d'atterrissage, et ainsi plus de 20 fois ce matin. Il y a une demi-heure, c'était au tour de M. Léopold Sédar Senghor, président de la République du Sénégal, de fouler en cette triste occasion le sol français. Et en pénétrant dans le salon d'honneur, fait unique dans la journée, le silence se fait. Tous se lèvent, ambassadeurs, préfets et ministres, comme pour saluer l'hommage qu'un homme allait rendre à un ami de toujours. Et Léopold Sédar Senghor, au cours d'une courte déclaration qu'il a accordée à nos confrères du secteur Afrique de l'ORTF, parle de l'homme Georges Pompidou.
J'ai lu dans l'avion les journaux, mais je pense que si on a eu raison de mettre l'accent sur l'intelligence et la culture du président Pompidou, je pense pour moi qu'on devrait plutôt insister sur sa sensibilité et sa bonté. Je pense que ce sont là les qualités les plus grandes du président Georges Pompidou et au demeurant, un de ses derniers actes officiels a été de gracier des condamnés à mort. Et je pense que c'est cette sensibilité jointe à sa grande intelligence qui lui ont fait comprendre les problèmes du tiers-monde. Et c'est dans ce domaine qu'il a été le fidèle continuateur du général de Gaulle, le grand décolonisateur.
André Sabat, je voudrais ajouter que le président Bourguiba vient d'arriver également avec une importante délégation. On attend aussi les chefs d'État du Tchad, un représentant de la Mauritanie, et ce soir, vers 22h, Richard Nixon.
C'est donc maintenant le moment de quitter la cathédrale Notre-Dame, ce haut lieu de notre histoire, témoin de nos peines et de nos joies, Notre-Dame de Paris qui vient de rendre hommage à la mémoire de Georges Pompidou. Une fois de plus, Pierre Cochereau est assis devant le clavier de la grande orgue de Notre-Dame, tandis que tout le monde commence à se lever en sent un certain frémissement. Monsieur Mesmer est toujours face à l'autel, de même que le président Poher.
Je pensais tout à l'heure que la maîtrise de Notre-Dame vient de chanter le choral final de la Passion selon saint Jean de Bach. Et tout cela nous rappelle des souvenirs, que de souvenirs. On avait chanté ici à Notre-Dame pour les obsèques des maréchaux Leclerc, de Lattre, Juin, pour Paul Claudel et bien sûr pour le général de Gaulle. Et puis, c'est ici, au cœur de Paris, que l'on a voulu dire, très haut sans doute, très solennellement, toute l'estime que l'on porte, tout le souvenir que l'on gardera à celui qui fut un grand et un bon Français, Georges Pompidou. Au milieu de ce décor grandiose, véritablement chargé d'histoire, comment aussi ne pas se souvenir des églises, des petites églises de France où le président était venu prier ?
Le 6 avril, c'est la journée de deuil officielle. Pour quelques heures, Paris est la capitale du monde. Après la messe, à Notre-Dame, les plus grands dirigeants profiteront de leur présence pour courir les ambassades et multiplier les rendez-vous.
Le rideau va tomber donc sur une journée qui a consacré un nom, celui de Georges Pompidou, président de la République française du 15 juin 69 au 2 avril 74. L'expression est usée, mais c'était vraiment le monde entier que l'on a retrouvé ce matin sous les voûtes de la plus belle cathédrale du monde, Notre-Dame. Près de 400 personnalités, des têtes couronnées, des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des ministres, des ambassadeurs. L'heure de la cérémonie était fixée à 11h, mais tout a commencé beaucoup plus tôt, Éric Gilbert.
Oui, ceux qui s'étaient levés tôt et qui avaient fait le déplacement ont vécu d'abord dans les coulisses de l'événement. À 7h ce matin, sous un ciel pluvieux, le premier cordon des gardiens de la paix, fourragère rouge à l'épaule, gants blancs, s'aligne le long des grilles sous le portail du jugement dernier. Et puis, en tenue kaki ouverte, les tireurs d'élite prennent position sur les toits autour de la cathédrale. Les allées et venues aussi à noter les allées et venues mystérieuses des agents de protection rapprochés. Un rassemblement de chefs d'État, de chefs de gouvernement, cela commence toujours ainsi par la sécurité avant le décorum. Cette mise en place terminée, la garde républicaine, chargée de la haie d'honneur, peut prendre place. Les hommes en tenue d'apparat, bottes noires, culottes blanches, sabre au côté, casque brillant. Ils ne sont pas venus à cheval, commodité ou simplicité, on ne le sait pas. Toujours est-il qu'ils descendent de deux minibus avant de se mettre au garde à vous le long de l'allée centrale. Tout est prêt pour les souverains, pour les chefs d'État, pour ceux du gouvernement. Première voiture, une Mercedes noire, c'est la délégation du Libéria. Trois personnes en descendent, trois hommes vêtus de jaquettes et portant un haut de forme. Le carrousel commence, s'anime, s'accélère, balaie des voitures, balaie des motards. Difficile de reconnaître les grands des petits, les puissants des pauvres, tant toutes ces voitures noires se ressemblent. De temps à autre, pourtant, un costume national, boubou ou djellaba, ou alors un uniforme, accroche l'œil. Et puis, un instant d'émotion, un petit garçon vêtu d'une djellaba blanche, coiffé d'un fez rouge. C'est le prince héritier du Maroc, Sidi Mohamed, il a 11 ans. Le ministre français des Affaires étrangères, Michel Jobert, guide paternellement ses pas. Mais dans la foule, on sent une sorte de frémissement. On attend en effet maintenant le final, pourrait-on dire, c'est-à-dire l'arrivée des deux super grands. L'américain Nixon, le russe Podgorny. C'est le russe Podgorny qui passe le premier. Il est rapidement escamoté à l'intérieur de la cathédrale. Le champ est libre pour Nixon. Arrivée spectaculaire. Arrivée made in USA, pourrait-on dire. Une voiture blindée, vitres teintées, deux grands fanions. D'abord le drapeau des États-Unis sur l'aile droite de la voiture, de la Lincoln Continental. De l'autre côté, le fanion personnel du président Nixon. Tout autour, les G-men qui se déplacent avec le mordant, la rapidité, la vélocité d'un pack de rugby. Ils entourent le président américain. Le président attend pour sortir 2 minutes. La protection est assurée. Il sort, il entre dans la cathédrale. À la sortie, on aura en prime la rencontre, Nikolai Podgorny, Nixon, les deux hommes se retrouvent ensemble, ils échangeront quelques mots, un sourire, une poignée de main, c'est l'événement dans l'événement. La foule n'a plus rien à attendre, elle commence à s'écouler, il est midi, le ciel est bleu sur Paris, une page d'histoire vient d'être tournée.
Merci à Alain Duhamel.
Chaque fois que Pompidou meurt, on voit le chat des empereurs, des chefs de tribu, des monarques, des sultans, le roi du Danemark.
Prise de son, Lucien Lefebvre et Antoine Espel.
Papa dit, c'est très beau, malheur.
Mixage, Claire Levasseur. Documentation, Anne-Lise Signoret et Corinne Chauvel. Archivina, Pierre Pinault.
Chaque fois que Pompidou meurt.
Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau.
Il ne faut pas exagérer, on va pas le ressusciter.
C'était 1974, Pompidou est mort.
Chaque fois que j'entends malheur,
un documentaire de Christelle Le Polothek, réalisé par Anne Fleury.
Malheur,
à suivre,
à
La France orpheline.
Chaque fois que j'entends malheur, je pense à Pompidou qui meurt. Chaque fois que j'entends malheur, je pense à Pompidou qui meurt. Chaque fois.